les midis, info week-end avec Léana Colombo.
Il s'est fait attendre, le gouvernement Barnier est tombé tôt ce matin pour nous. Un casting avec de nombreuses personnalités de la majorité présidentielle et du parti Les Républicains. Vous entendrez notamment dans ce journal les réactions de la classe politique calédonienne. Une activité soutenue cette nuit sur l'ensemble du territoire, c'est ce qu'annonce le haut-commissaire dans son point de situation. On notera des entraves à la circulation, des feux de végétation et des caillassages sur les forces de l'ordre qui ont fait 3 blessés. Jean-Pierre Jaïwe, l'un des porte-parole du Palika et chef du groupe Uni au Congrès, livré vendredi à Elisabeth Noir son analyse de la situation lors du magazine Transparence. Et enfin, du sport national avec du football, du rugby et de la F1. Côté local, nous ferons un point sur les compétitions à la piscine du CNC qui se sont tenues ce week-end. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité, 19 ministres de plein exercice pour un exécutif qui compte 39 membres. Le gouvernement de Michel Barnier a officiellement été dévoilé aujourd'hui, peu avant 20h heure de Paris, 5h heure de Nouméa. Après 2 semaines d'attente, le secrétaire général de l'Élysée a annoncé les noms des ministres nommés par Emmanuel Macron. Michael Juneski.
Oui, un nouveau gouvernement pour tenter de clore la crise politique actuelle, alors qu'aucune majorité claire ne se dégage des dernières élections législatives à l'Assemblée nationale. C'est donc le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui a énuméré les noms des nouveaux membres de l'exécutif sur le perron du palais présidentiel.
Le président de la République a nommé M. Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame Anne Genneté, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer.
Et parmi les entrées, vous l'avez entendu, le chef des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, qui a été nommé ministre de l'Intérieur. Autre ministère important, l'ex-socialiste Didier Migaud, donc, qui a présidé la Cour des comptes pendant 10 ans et qui devient le garde des Sceaux. Des ministres qui restent en place, Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Outre-mer dans le gouvernement de Jean Castex, reste ministre des Armées, tout comme Rachida Dati, reconduite au ministère de la Culture. L'ancienne porte-parole et ministre de Nicolas Sarkozy avait rejoint le gouvernement Attal en janvier dernier. Autre poste clé, la députée du Modem, Geneviève Darrieussecq, a quant à elle été nommée ministre de la Santé et de l'Accès aux Soins. Anne Genevard, codirigeante par intérim des LR, hérite d'un portefeuille ultra sensible, celui de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Agnès Pannier-Runacher, membre de l'aile gauche du parti présidentiel Renaissance, reste au gouvernement, mais après avoir été chargée de la transition énergétique, elle devient ministre de la transition écologique et de l'énergie. Gilles Averroux, ancien LR, entre au gouvernement comme ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Enfin, si Gérald Darmanin quitte le gouvernement, c'est l'une de ses proches, Maud Bréjon, qui a été nommée à 33 ans porte-parole du gouvernement. Un autre poids lourd a quitté l'exécutif, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui s'était particulièrement impliqué dans la crise calédonienne. Antoine Armand, le député macroniste, prend le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à Bercy, tandis que Laurent Saint-Martin, également macroniste, est lui nommé ministre du budget et des comptes publics, mais directement rattaché à Matignon.
Et Michael, la composition de ce nouveau gouvernement a déjà suscité de vives réactions de la part de l'extrême gauche, mais aussi du Rassemblement national.
Le nouveau Front populaire revendiquait de gouverner et a promis de s'opposer de toutes ses forces au gouvernement. Près d'un millier de sympathisants de gauche ont d'ailleurs manifesté à Paris. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé à, je cite, se débarrasser aussitôt que possible de ce gouvernement des perdants des élections législatives qui n'a, je cite toujours, selon lui, ni légitimité ni futur. Pour Lucie Castec, qui a été désignée candidate du Nouveau Front populaire à Matignon, la démocratie est humiliée. La secrétaire nationale du parti Les Écologistes, Marine Tondelier, a déclaré « Le Premier ministre fait du macronisme en pire », tout comme le chef de file des députés socialistes Boris Vallaud. Enfin, le Rassemblement national, qui peut faire tomber ce nouvel exécutif s'il additionne ses voix à celles de la gauche, a immédiatement dénoncé le retour du macronisme par une porte dérobée. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir, a réagi son président Jordan Bardella. Marine Le Pen, pour sa part, a déclaré « Les Français qui ont exprimé par deux fois lors des dernières élections leur volonté de rompre avec 7 années de renoncement et d'échec du macronisme se retrouvent avec un gouvernement remanié, éloigné du désir de changement et d'alternance exprimé en juin dernier. » Et puis Éric Ciotti, du nouveau parti UDR, a indiqué que le gouvernement de Michel Barnier, c'est la victoire du macronisme qui absorbe de nouveaux alliés issus des Républicains et de la gauche pour poursuivre la même politique mère de la même faillite nationale. Fin de citation. Michel Barnier, enfin le Premier ministre, a écrit pour sa part très sobrement sur le réseau Twitter « Une équipe maintenant au travail ». 3 mois et demi après la dissolution de l'Assemblée nationale, l'exécutif se réunira autour d'Emmanuel Macron lundi à 15h, heure de Paris, minuit pour nous, pour son premier Conseil des ministres.
Et c'est donc le sénateur Les Républicains François-Noël Buffet qui est le nouveau ministre des Outre-mer, en remplacement de Marie Guévenoux, un ministre des Outre-mer qui n'est plus rattaché à l'intérieur, comme c'était le cas dernièrement, mais qui dépend directement de Matignon, Elisabeth Noir.
Un ministre des Outre-mer directement rattaché au Premier ministre, et on parle même, c'est encore à confirmer, d'une personnalité dédiée à la Nouvelle-Calédonie au sein du cabinet du Premier ministre. Ce n'est pas anodin dans l'architecture gouvernementale. Cela signifie que le Premier ministre suivra directement et de très près les dossiers ultramarins et au premier rang d'entre eux, le dossier ultra-sensible de la Nouvelle-Calédonie. Mais on sait que d'autres Outre-mer retiennent actuellement l'attention, notamment la Guadeloupe, la Martinique ou Mayotte. Âgé de 61 ans et avocat de profession, François-Noël Buffet est une personnalité forte du Sénat, où il siège depuis 2004 et dont il était depuis 2020 le président de la Commission des lois. C'est à ce titre qu'il est venu en Nouvelle-Calédonie en juin 2022 pour une mission de la Commission des lois qui a publié un rapport avec 6 propositions pour relancer le dialogue en Nouvelle-Calédonie et pour sortir de cette période d'entre-deux. C'est un rapport qui avait lieu après le 3e référendum. Il connaît donc bien la situation calédonienne et les interlocuteurs. Sa nomination et le fait qu'il soit directement rattaché à Matignon sont bien accueillis sur le territoire. La réaction du président du gouvernement, Louis Mapou.
Je pense que c'est une bonne chose. Depuis le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie est bloquée. La dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République est venue rajouter à la crise. Donc nous étions dans l'attente de connaître quel serait notre nouvel interlocuteur au plus haut niveau, même si je dois saluer le travail qui a été fait par les équipes sortantes, notamment par Bruno Le Maire et l'Élysée pour nous accompagner dans la passe difficile. Mais en plus qu'on est un fin connaisseur, me semble-t-il, je crois de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il a eu à conduire une mission d'information en juillet 2022, dont les conclusions me semblent contenir, si je me souviens bien, les éléments qui sont indispensables pour relancer les discussions en Nouvelle-Calédonie, pour prendre en compte les conséquences de la grande crise dans laquelle nous sommes encore pour une bonne partie, mais que, dont nous sommes en train de sortir. Donc c'est important que le Premier ministre avec M. Buffet soit directement en charge de la situation en Nouvelle-Calédonie pour ce qui nous concerne.
Qu'est-ce que vous attendez d'eux maintenant?
J'attends surtout qu'il y ait une initiative qui soit reprise au plus haut niveau pour qu'on puisse définir ensemble dans quel cadre nous allons évoluer, parce qu'on ne perd pas de vue qu'il y a des élections provinciales qui sont toujours d'actualité pour fin d'année. Pour ce qui nous concerne, nous avons eu à traiter les urgences liées à la crise avec le gouvernement central. Je considère que le soutien était au rendez-vous pour ce dont nous avions besoin, mais nous avons engagé un grand chantier qui est celui des plans de sauvegarde, de refondation et de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel nous avons franchi une étape vendredi dernier, puisqu'on a fait un séminaire de gouvernement pour regarder qu'est-ce qu'il en revenait des contributions des uns et des autres. Donc nous avons prévu quelque chose, d'organiser le forum les 10 et 11 octobre. Donc ce que j'attends surtout, c'est qu'on puisse inscrire tout ça dans une démarche qui permette à la Nouvelle-Calédonie de sortir par le haut d'ici les 2 prochains mois, j'ai envie de dire au mois d'octobre, au mois de novembre, puisqu'on ne sait pas encore si les élections vont être maintenues ou pas. Donc c'est de cela que c'est la priorité du moment, me semble-t-il.
Et en matière d'ordre public, vous attendez également des assurances?
En matière d'ordre public, je pense qu'on ne peut pas faire plus que ce qui a déjà été fait. Et je crois qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui a été fait, parce que j'ai fait un communiqué vendredi pour dire ma tristesse et combien on est meurtri qu'on en arrive à ce point-là. C'est quand même la preuve d'un blocage interne à la société calédonienne, de la manière dont on prend en charge le vivre ensemble et pour essayer de définir au mieux le destin commun pour les Calédoniens. Donc moi, je demande même qu'on n'aille pas plus loin. Et on espère que, comme le haut-commissaire l'a dit, d'ici le 1er octobre, on passe à autre chose. Et peut-être que les initiatives qui sont prises aujourd'hui par le Premier ministre et M. Buffet iraient dans ce sens-là.
Réaction de Louis Mapou. Soutien à l'économie, report ou non des provinciales, reprise des discussions sur l'avenir, retour de l'ordre public. Ce sont les gros dossiers auxquels devra répondre François-Noël Buffet sous l'égide du Premier ministre. Et c'est ce qu'attend également la présidente de la province sud, Sonia Backès, qui a rencontré récemment le nouveau ministre des Outre-mer.
François-Noël Buffet, c'est quelqu'un qui connaît très bien le dossier calédonien. J'ai eu l'occasion de le voir quand je suis allée à Paris il y a 3 semaines. Il a suivi de près les événements depuis le mois de mai. Il a eu des visioconférences avec les responsables politiques calédoniens pendant au plus fort de la crise. Donc c'est quelqu'un qui a suivi de très près, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, on constate que c'est désormais un ministre de plein exercice rattaché directement au Premier ministre, si compte tenu des ingérences étrangères qu'on constate et ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe, et de l'action de ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan, je pense que c'est une bonne chose d'avoir un ministre directement rattaché au Premier ministre.
Dans ce gouvernement, on a plusieurs personnalités qui connaissent la Nouvelle-Calédonie. On pense bien sûr à Sébastien Lecornu, qui reste ministre des Armées, à Bruno Retailleau, qui est venu en Calédonie, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. On peut penser qu'il y aurait une sensibilisation forte au dossier.
Oui, Bruno Retailleau et Sébastien Lecornu, j'ai eu également l'occasion de les voir il y a 3 semaines. Sébastien Lecornu, tout le monde connaît son attachement à la Nouvelle-Calédonie et son action en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Et Bruno Retailleau, qui était chef de groupe des Républicains au Sénat, a suivi également de très près. On va avoir besoin d'un ministre de l'Intérieur qui nous maintient une présence forte des forces de l'ordre parce qu'on voit bien que la situation, si elle est plus calme, n'est stabilisée que parce qu'il y a une présence importante de forces de l'ordre. Donc c'est important d'avoir un ministre de l'Intérieur qui est sensibilisé sur le sujet.
Qu'est-ce que vous attendez maintenant de ce nouveau gouvernement concernant le dossier calédonien? Retour à l'ordre, mais aussi reprise des discussions éventuellement?
Oui, retour à l'ordre. On a un gros sujet économique qui devient très très urgent. Donc je pense qu'il faudra également sensibiliser le ministre de l'Économie et des Finances qui est sans doute moins sensibilisé au dossier calédonien. Et puis évidemment, voir comment on sort de la situation actuelle avec la question de la date des élections qui paraissent difficiles à organiser. Le 15 décembre, compte tenu de la triche qu'il y a eu lors des législatives et de l'absence de sécurité partout. Donc, il y a la première question qui sera celle du report ou non des élections et puis de comment on met en place un statut qui permet à chacun de vivre en sécurité.
Depuis Paris, le député Nicolas Metzdorf explique lui aussi sa satisfaction et d'abord sur la composition et l'architecture du nouveau gouvernement.
Enfin, un gouvernement de plein exercice. Je crois qu'il y a des dossiers urgents et le dossier le plus urgent aujourd'hui pour la France, c'est le retour à l'ordre en Nouvelle-Calédonie et des solutions économiques et politiques. Donc on va pouvoir avancer désormais. Je suis satisfait de voir que c'est un gouvernement quand même globalement à droite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les non-indépendantistes. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que le ministre des Outre-mer est rattaché directement à Matignon. Et donc ça confirme ce que m'avait dit Michel Barnier, dans la mesure où il allait gérer lui-même directement le dossier calédonien. Donc on peut aujourd'hui affirmer sans trop de crainte que le dossier calédonien est géré directement par Matignon.
Lors d'un entretien avec le cabinet du Premier ministre, il y a quelques jours, Nicolas Metzdorf avait en effet eu l'assurance que le dossier calédonien serait directement traité par le Premier ministre. Et il est soulagé qu'il y ait enfin un gouvernement de plein exercice.
C'est important pour la question calédonienne dans la mesure où tant qu'il n'y a pas de gouvernement, tout Paris s'excite pour composer un gouvernement et qui va y rentrer et quels seront les rapports de force. Donc c'est vrai qu'on était dans la politique politicienne à Paris et que donc du coup les questions importantes comme la Nouvelle-Calédonie n'étaient pas forcément tout de suite à l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, maintenant qu'il y a un gouvernement de plein exercice, qu'il y a un président de la République, qu'il y a un Premier ministre, tout le monde en ordre de marche, les dossiers vont pouvoir avancer. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle, ça arrive tard mais ça arrive.
Réaction également de Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elle aussi voit d'un bon oeil la nomination de François-Noël Buffet et l'orientation politique du gouvernement Barnier.
On constate déjà que ce gouvernement est composé largement de notre famille politique, c'est-à-dire de la droite républicaine, ce qui pour nous est une bonne chose, notamment sur des ministères qui concernent la Nouvelle-Calédonie qui sont importants. Je pense notamment à la nomination de François-Noël Buffet au ministère de l'Outre-mer. C'est une très bonne chose. François-Noël Buffet, qui était président de la Commission des lois, est un fin connaisseur du dossier calédonien. Il a une très grande capacité d'écoute, d'analyse. C'est une chance dans le contexte que connaît la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui pour traiter notre sujet avec sérieux et à approfondissement. Donc c'est vraiment une bonne chose. Par ailleurs, nous sommes satisfaits, bien sûr, hein, que Bruno Retailleau, dont on connaît les valeurs encore de droite, donc je veux rappeler que au centre de ces valeurs de droite, il y a la sécurité et l'ordre pour l'ensemble des Français, dont font partie les Français de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes donc satisfaits, bien sûr, que Bruno Retailleau assume cette responsabilité. Nous espérons que ce gouvernement pourra vivre et gouverner, qu'il ne sera pas trop perturbé par une forme d'agitation et d'hystérie au niveau national, sentant le climat politique. Et nous espérons que les décisions prises par le gouvernement Barnier pourront donner de la sérénité et de l'apaisement à la fois à la vie politique nationale, mais aussi pour la Nouvelle-Calédonie dans les temps très difficiles que notre territoire vit aujourd'hui.
Et puis satisfaction également pour Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble. Il parle de bonnes nouvelles.
La désignation d'un gouvernement de plein exercice, enfin, c'est forcément une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle d'abord pour la France et puis une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. On a un ministre de plein exercice, il est rattaché directement à Monsieur le Premier ministre et en l'occurrence, François Buffet est quelqu'un qui connaît vraiment bien la Nouvelle-Calédonie. On a l'avantage de l'avoir. Président de la commission des lois du Sénat et nombreuses reprises, je l'avais rencontré au Sénat, il est venu en Nouvelle-Calédonie, il connaît les interlocuteurs, il connaît, je pense, très bien la problématique qui est la nôtre. C'est un homme de consensus, un homme d'écoute, de dialogue. Donc moi je salue sa nomination qui d'abord nous permet d'avoir un interlocuteur dédié qui est en prise directe avec le Premier ministre. Je pense que c'est des conditions qui sont absolument nécessaires pour qu'on trouve une solution politique. Puis c'est aussi très important, de manière très, très urgente, également dans la perspective de la présentation de la résolution et du plan 2024-2029 pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d'être sauvée des conséquences économiques et sociales désastreuses qu'elle vit. Lui aussi aura déjà les paramètres en tête et les personnes qui sont parties à Paris auront l'occasion de le rencontrer pour faire toucher du doigt, si besoin était, l'énormité du besoin qui est celui des Calédoniens.
Et enfin, sur l'échiquier politique calédonien, la réaction du président de l'Union calédonienne, Daniel Goa. Il est satisfait que la France ait enfin un gouvernement.
Je dirais que c'est une bonne chose, parce qu'enfin, on a un gouvernement. Et c'est quand même une exception. Dans la Ve République, on est autant de temps entre le gouvernement démissionnaire et puis les nouveaux. Et donc, évidemment, avec le temps qui court, ça fait beaucoup de paroles qui circulent. Sont bons pour ceux qui tiennent la route pour certaines et puis qui ne tiennent pas la route pour d'autres, mais qui influencent quand même l'opinion. Et donc, nous, en ce qui nous concerne ici, ben, nous attendrons de voir la mise en place du gouvernement, voilà, ces choses faites. Maintenant, nous attendrons la suite, quoi. Nous serons prêts à aller au travail avec eux, mais maintenant, il faut laisser venir.
Vous attendez des signes pour une reprise éventuellement des discussions avec l'exécutif à Paris ?
Pas à Paris. Le congrès de l'UFLN a dit que c'est ici.
Des discussions à Nouméa et non à Paris pour l'Union calédonienne. Ce sera aussi l'un des dossiers à traiter pour le nouveau ministre en charge des Outre-mer. Précisons que la passation de pouvoir rue Oudinot entre François-Noël Buffet et Marie Guévenoux aura lieu dans la soirée pour nous.
Merci Elisabeth Noir. Midi 18, on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir ensuite toutes les exactions sur le territoire qui ont lieu cette nuit. A tout de suite.
Pour ton orientation ou ta reconversion, découvre toutes les opportunités qu'offre la formation en alternance de la CCINC. L'alternance, c'est une formation, une expérience, un métier. 12 formations dans 5 secteurs différents, du niveau bac à bac plus 3. Des formations adaptées aux entreprises pour former les collaborateurs de demain. Inscris-toi dès maintenant sur www.pointa.nc jusqu'au 4 octobre. Plus d'infos sur www.cfa.cci.nc. La CCI Formation Alternance, accélératrice de compétences et d'insertion professionnelle.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend avec l'actu sur le territoire, on retrouve Léana Colombo.
Oui, et des exactions à signaler, une activité soutenue sur l'ensemble du territoire. Après une nuit de vendredi à samedi qui s'est déroulée dans un calme relatif, les forces de l'ordre ont eu fort à faire cette nuit, Léo Fichou.
Plusieurs quartiers de Nouméa ont nécessité l'action de la police et des pompiers pour des entraves à la circulation et des feux de végétation. On citera les secteurs de Montravel, Rivière-Salée, Tinducaméré ou encore Pécassis. Dans l'agglomération, les gendarmes ont procédé au déblaiement de nombreux obstacles sur la Save Express et ont été confrontés confrontée à des barricades enflammées, notamment à Dumbéa, dans les secteurs d'Auteuil et Jacarandas. À Païta, on notera également plusieurs interventions des forces de l'ordre, une première du côté du Mont-Mou, devant le lycée Jean 23, où des jeunes ont mis le feu à des branchages. Des encombrants ont également été enlevés sur la route devant le musée et dans le col de la pirogue. Au Mont d'Or, dans la partie sud, les pompiers sont intervenus sur plusieurs départs de feux de brousse le long de la RT1 et de la briqueterie. La gendarmerie est intervenue quant à elle à la Conception. Ce matin, la circulation était rétablie sur l'ensemble des communes et lors de ces opérations de sécurisation, les forces de l'ordre ont subi des caillassages qui ont fait 3 blessés.
Et dans son point de situation, le haut-commissaire Louis Lefranc rappelle que la violence ne doit pas prévaloir et qu'aucun acte de ce type ne sera toléré. Et justement, c'est dans ce contexte de préparation optimale à la proche du 24 septembre que le haut-commissaire est parti à la rencontre hier de la police et de la gendarmerie dans leurs casernes respectives pour constater les moyens déployés en ce long week-end, Léo.
Et c'est une véritable vague bleue qui déferle sur la Calédonie depuis hier. Vague bleue, c'est le nom de l'opération menée sur les routes par les gendarmes de Nouvelle-Calédonie. En tout, près de 6000 policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés pour garantir la sécurité de tous. 41 équipes de forces mobiles avec des renforts de la sécurité civile quadrillent tous les secteurs. Un dispositif de grande ampleur qui était une nécessité selon le haut-commissaire, qui rappelle également le rôle clé des sapeurs-pompiers.
La Nouvelle-Calédonie a besoin de sentir qu'il y a un dispositif de maintien de l'ordre qui est là, qui les rassure, qui va leur permettre de vivre ces 4 jours normalement. Ils en ont besoin parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ont subi de lourdes épreuves. Ceux qui ont des commerces, ceux qui ont des entreprises, n'ont pas envie de se réveiller le 25 matin avec la gueule de bois, avec leur commerce ou leurs entreprises brûlées. Donc ils sont là pour ça, avec les pompiers. Les pompiers sont complètement intégrés dans la manœuvre policière et celle de la gendarmerie. Donc pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a des incendies de commerce, d'habitation, quand il y a des incendies de barrages sur des axes, il faut que les pompiers puissent agir en toute sécurité. Et pour agir efficacement, il faut la présence de la gendarmerie et de la police nationale.
Hier matin, Louis Lefranc s'est rendu au COS, centre opérationnel zonal, puis a rencontré dans la soirée policiers et gendarmes. À l'occasion de ce week-end, plusieurs centres de commandement spéciaux seront mis en place dès demain. Au commissariat central, par exemple, 2 zones équipées de radios, caméras de surveillance et gérées par 10 d'opérateurs seront établies. À Nouméa, entre 120 et 140 caméras assureront la surveillance 24 heures sur 24. Cette forte mobilisation permettra une plus grande efficacité et réactivité des forces de l'ordre, car les remontées de terrain sont nombreuses et il est primordial de savoir faire le tri entre toutes ces informations, explique le haut-commissaire.
Si on devait réagir sur tout ce qui nous est dit, on serait déjà sur le pied de guerre. On fait attention, on recoupe ce qui nous est dit. Pour l'instant, on est sur une posture de vigilance. Peut-être que dimanche, lundi, mardi sont des journées assez calmes, hein, ce qu'on souhaite tous. Peut-être aussi qu'elles ne le seront pas. Vous savez, le renseignement, c'est une science, hein. Il faut aller le chercher. Il y a aussi parmi ceux qui sont pas forcément dans des postures amicales vis-à-vis des forces de l'ordre, une propension à distiller des informations qui sont erronées pour créer des points de tension à tel ou tel endroit, pour mobiliser des forces à tel ou tel endroit, pour créer une dispersion de nos forces, pour diluer notre dispositif. Nous, on reste concentrés et on est là pour faire face à toutes les hypothèses. On est là pour séparer l'ivraie du bon grain.
Pour rappel, en plus de ce dispositif préventif, des mesures administratives sont mises en place comme le couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'à mardi inclus. On notera aussi l'interdiction des rassemblements, l'interdiction d'achat et de transport d'alcool ou encore l'interdiction de transport d'armes.
Justice maintenant et une garde à vue toujours en cours pour 2 personnes de Saint-Louis qui se sont rendues d'elles-mêmes à la gendarmerie, Michael.
En tout, 3 personnes se sont présentées spontanément aux forces de l'ordre. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République. Hier soir, 2 personnes faisaient l'objet d'un mandat de recherche pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elles ont été placées en garde à vue pour des tirs sur des gendarmes. Le 3e mis en cause dans un délit de recel de vol a reçu une convocation en justice avant d'être remise en liberté à l'issue de sa garde à vue. Le procureur de la République souligne que les opérations judiciaires pour interpeller les 9 auteurs présumés faisant l'objet d'un mandat de recherche se poursuivent. Il a salué l'action des autorités coutumières en direction des jeunes et de leurs familles au sein de la tribu de Saint-Louis.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 12h24.
Et c'est Jean-Pierre Jaiway, l'un des porte-parole du PALICA et chef du groupe uni au congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a été interrogé sur l'Assemblée Générale Extraordinaire du PALICA. qui était réunie samedi dernier, et plus globalement sur la situation de la Nouvelle-Calédonie, Michael.
Jean-Pierre Jaiwe s'est d'abord exprimé sur l'actualité immédiate. Interrogé sur la mort jeudi de deux hommes à la tribu de Saint-Louis, il a appelé au calme.
On ne peut pas se réjouir quand il y a des morts ici en Nouvelle-Calédonie, des jeunes, et donc on peut regretter que de telles actions puissent se maintenir dans le pays aujourd'hui. On a demandé à ce que, compte tenu de la situation de la Nouvelle-Calédonie avec la crise, il faut que le calme revienne. Il faut que l'ensemble de la population comprenne qu'il faut que le calme revienne parce qu'il faut reconstruire le pays. Et donc, il faut se ranger pour éviter qu'il y ait de tels événements qui arrivent. Ça va être encore des familles endeuillées, des mamans qui vont pleurer leurs enfants. C'est insupportable. Il faut que ça s'arrête.
Et le porte-parole du Palika appelle aussi à un retour au calme dans la tribu de Saint-Louis.
On connaît l'histoire de Saint-Louis. Ça ne date pas d'hier, et les choses se sont aggravées depuis le 13 mai. Il y a des populations qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des enfants qui ne peuvent pas regagner les bancs de l'école. Il faut que la vie reprenne son cours normal. Il faut que les jeunes reviennent à la raison. C'est pas normal que dans une tribu comme Saint-Louis, il y ait tout le temps des actions, des jeunes. Et puis, moi, je ne connais pas très bien la tribu de Saint-Louis, mais entendre Rock Wamitan qui parlait la dernière fois, il n'y a pas que des jeunes de Saint-Louis, il y a des jeunes d'un peu partout qui sont là. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'ordre dans les tribus. C'est important. Donc, ce sont les autorités coutumières, ce sont les parents qui doivent faire en sorte à ce que ce calme, cet ordre revienne au sein de la tribu.
Jean-Pierre Jaiwe affirme que le Palika n'avait pas vu venir l'émergence de la CCAT et qu'il a été surpris par l'intensité des violences. Et quand on parle des causes de cette insurrection, il refuse que l'on dise que rien n'a été fait depuis 30 ans et la signature de l'accord de Nouméa.
Oui, il y a des gens qui tiennent ce discours-là, que l'accord de Nouméa, qu'on n'a rien fait. Non, on a fait beaucoup de choses. Et les jeunes aujourd'hui, quand ils voient la situation dans le pays, quand ils voient qu'il y a des collèges, par exemple, dans le Nord, que ce soit des collèges de Koumak, de Ouégoua, de Yengen, qu'il y ait le PSN, le pôle sanitaire Nord, qu'il y ait Koumak, qu'il y ait des collèges, des lycées partout, ça n'a jamais existé, ça n'a pas toujours existé. Moi, de mon temps, quand j'allais à l'école, je marchais à pied. 7 km le matin, 7 km le soir. Aujourd'hui, tous les enfants, pour aller à l'école, se rendent à l'école, ils prennent le car, ils ont la cantine. Beaucoup de choses ont évolué. Et ça, c'est grâce aux collectivités, grâce aux élus, aux efforts qui ont été faits. Ça n'a pas toujours existé. Donc, bien évidemment, on arrive aujourd'hui, on dit que ces jeunes-là qui croient qu'ils ne sont pas assez pris en compte. Certes, mais il y a des dispositifs, il faut aussi également que les uns et les autres se prennent en charge.
Le projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral a été le prétexte au déclenchement des émeutes, l'occasion pour Jean-Pierre Jaiwe de rappeler la position de l'UNI sur ce sujet du corps électoral.
Dans la délégation du FNKS qui a discuté avec l'État, quand on a évoqué le sujet du corps électoral, on a dit pourquoi pas repartir sur les 10 ans, comme le prévoyait l'accord de Nouméa et de Matignon. 10 ans de résidence, et puis qu'il fallait discuter sur les natifs. Et nous, pour ce qui concerne le Palika, dans la dernière discussion qu'on a eue avec le ministre dans un format tripartite avec les non-indépendantistes, on a proposé, c'est le Palika qui a proposé, de faire un petit peu comme un exemple de ce qui se passe en France pour la citoyenneté française, de mettre en place un code de la citoyenneté calédonienne.
Lors de sa récente assemblée générale extraordinaire, le Palika a déclaré qu'il s'était fait virer du FLNKS et qu'il déciderait à son congrès de novembre s'il reste membre ou non de la coalition indépendantiste. Jean-Pierre Jaiwe est revenu sur ce congrès dit du FLNKS qui se tenut fin août à Koumak.
C'est la CCAT qui a pris la main sur le FLNKS. Donc nous, on a dit que cet ordre du jour-là, ces décisions-là ne nous conviennent pas. Donc on ne peut pas s'engager dans un congrès avec cet ordre du jour. Et puis, bon, les décisions qui ont été prises pour nous, ça ne nous concerne pas. L'élection du président Tristan Théin, ça ne nous engage pas non plus. Et puis, on va avoir dans les mois qui viennent jusqu'à la prochaine tenue de notre congrès Palika en novembre, de voir un petit peu comment évolue le nouveau format du FLNKS aujourd'hui. Et on appréciera au moment voulu si on revient, on réintègre et comment on réintègre. La décision, on le prendra à ce moment-là. On se donne le temps d'apprécier la nouvelle gouvernance du FLNKS jusqu'en novembre et puis on appréciera le moment venu.
Un FLNKS qui, selon Jean-Pierre Jaiwe, a perdu son rôle et sa représentativité en raison de son implication dans la gestion des collectivités. Mais pour le porte-parole du Palika, le plus grand regret, c'est la destruction du vivre ensemble provoquée par les émeutes du 13 mai.
On a fait beaucoup de choses, il y a eu un travail qui a été fait, on est allé dans le sens de se vivre ensemble, on a essayé de mieux se comprendre, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé le 13, ce travail-là, il a été anéanti et il faut certainement tout recommencer. Mais je ne pense pas que tout soit tombé à zéro. Je pense que dans le Nord, comme ailleurs, ici aussi, dans le quartier de Nouméa, où il y a encore des gens qui ont cette bonne volonté, qui disent qu'ils gardent toujours une certaine lueur d'espoir pour dire que les choses ne sont pas complètement anéanties et qu'on a toujours la possibilité de retrouver cette volonté de vivre ensemble. Parce que nous, pour ce qui nous concerne, il faut qu'on vive ensemble, il faut travailler ensemble. Et il ne faut pas que la revendication d'indépendance tourne à une revendication raciste.
Jean-Pierre Jayway fait enfin le constat de l'effondrement de l'économie calédonienne, une situation dramatique dont la Nouvelle-Calédonie ne sortira qu'avec l'aide de la France.
La question, c'est comment on va faire pour se redresser sans l'aide de la France. J'ai eu l'occasion de le dire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, nous sommes rentrés dans un processus qui est l'accord de Nouméa, un processus de décolonisation et d'émancipation, pour arriver au terme de ce processus et de dire que la Calédonie peut progressivement voler de ses propres ailes, d'avoir les moyens de ses besoins. Parce qu'il s'est organisé pendant ces 30 ans, on a mis des choses en place. Le résultat des cours, c'est quoi? Avec ce qui s'est passé le 13 mai, c'est qu'on arrive à la fin de ce processus et aujourd'hui, il y a le plan S2R qui est préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puis il y a un plan quinquennal sur proposition de Calédonie Ensemble qui demande 500 milliards. Demander 500 milliards à l'État au terme de ce processus d'émancipation, quel est le meilleur moyen de démontrer que l'indépendance n'est pas viable que au terme de ce processus, demander 500 milliards à l'État?
Une aide de l'État conditionnée à des réformes et le porte-parole du PALICA fait le constat que l'on n'a pas pris les bonnes décisions quand il fallait les prendre et que l'on a perdu beaucoup de temps. Interrogé sur la filière nickel et sur l'arrêt de KNS, il déclare que personne ne s'attendait à une telle situation et que ça fait mal au cœur. Une interview de Jean-Pierre Jayway à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45.
Merci Mickaël, 12h31, allez, on va marquer une seconde pause dans ce journal et nous retrouverons tout le sport avec Léo Fichou.
Le fitness débarque au quartier latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Allez, on ouvre nos pages sport avec du football et 3 matchs nuls la nuit dernière, Léo.
Un match nul avec beaucoup de buts d'abord entre Lille et Strasbourg pour commencer la nuit. Score final 3 partout entre Lille et Strasbourg. Donc dans la foulée, Rennes et Lens se sont quittés dos à dos 1 partout. Et puis surprise à Reims, les Rémois ont tenu en échec Paris. Match nul là aussi, 1 but partout. La nuit prochaine, 5 matchs sont au programme. Monaco-Le Havre, Angers-Nantes, Brest-Toulouse, Montpellier-Auxerre. Et enfin un choc entre Lyon et Marseille demain matin à 5h45 de Nouméa.
Et ça joue aussi ce week-end dans les autres championnats européens.
Et de gros score sur les pelouses allemandes, espagnoles et anglaises. Le Bayern Munich a écrasé le Werder Bremen 5-0 grâce notamment à un doublé de Michael Olise. Le Real Madrid a dominé l'espagnol Barcelone 4-1 avec un but sur pénalty d'Mbappé. Liverpool et Chelsea, eux, ont respectivement battu Bournemouth et West Ham 3-0. En Italie, en revanche, pas de but entre la Juventus de Turin et Naples.
Et du rugby maintenant avec la suite de la 3e journée de Top 14.
Le Stade toulousain est venu à bout de Montpellier 20-11. Lyon s'est incliné contre Vannes 30-20, c'est la première victoire du promu en top 14. Clermont a battu Bayonne 26-10. Démonstration de La Rochelle 49-25 contre la section paloise et de Bordeaux-Bègle 52-34 contre le Racing 92. Et puis Castres enfonce l'USAP à la dernière place du classement, victoire 27-12.
Et en rugby, toujours la 5e et avant-dernière journée du rugby championship.
Énorme surprise, en Argentine, les Pumas ont battu les champions du monde en titre, victoire d'un petit point 29-28 contre l'Afrique du Sud. Hier, la Nouvelle-Zélande est venue à bout de l'Australie, victoire 31-28.
On passe au sport automobile avec le Grand Prix moto d'Émile-Romagne à Misano.
Automobile et mécanique avec Francesco Bagnaia qui a remporté la course sprint sur Ducati. Il devance Jorge Martin sur Pramac et une autre Ducati, celle d'Enea Bastianini. Fabio Quartararo termine à une belle 7e place. Juan Zarco, lui, est 17e. Le départ de la course principale sera donné ce soir à 22h, heure de Nouméa.
Et puis de la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Le Grand Prix de Singapour et les Français une nouvelle fois en difficulté.
Une semaine après un très mauvais week-end en Azerbaïdjan pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, les pilotes alpines n'ont pas fait bien mieux cette nuit lors des qualifs à Singapour. Pierre Gasly s'élancera de la 18e place. Esteban Ocon, lui, partira en 15e position. C'est Lando Norris sur McLaren, qui a décroché la pole position. Il devance le triple champion du monde Max Verstappen sur Red Bull et les deux Mercedes de ses compatriotes Lewis Hamilton et George Russell. À noter la double contre-performance pour Ferrari. Charles Leclerc partira 9e, Carlos Sainz 10e. Le départ du Grand Prix de Singapour sera donné à 23h heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et on passe au sport local avec le retour des compétitions à la piscine du CNC aujourd'hui.
Un circuit dit d'animation par Stéphane Tichon, conseiller technique de la Ligue nationale de la Ligue de natation de Nouvelle-Calédonie. Un circuit qui comporte 4 étapes et aujourd'hui c'est la 3e étape. Depuis 8h30 et jusqu'en fin d'après-midi, 5 épreuves sont au programme. Le 200 mètres 4 nages, le 100 mètres papillon, le 50 mètres brasse, le 200 mètres d'eau et puis le 100 mètres nage libre. Une première compétition depuis le début des émeutes qui a tout de même quelques particularités, il faut le dire, puisque les nageurs vont faire les mêmes courses le matin et l'après-midi. Dans le bassin 25 mètres de la piscine du CNC, ils étaient plus de 120 à reprendre la compétition ce matin. Un retour attendu par tous depuis plusieurs mois.
Oui, depuis tout ce qui s'est passé, ça fait du bien de renager en piscine et j'ai amélioré de 3 secondes.
Un peu dur vu que ça fait 4 jours, on a nagé en mer parce que les piscines s'est fermées et tout. Un peu dur, mais ça va, il y a une bonne ambiance. Il y a le soleil aussi.
Je viens de nager le 204 nage. Franchement, c'est cool, ça faisait longtemps. On reprend un peu les sensations, c'est vraiment bien.
Ça fait, je pense, c'est bien de retrouver les bassins avec tout le monde et il y a une bonne ambiance et c'est sympa.
Ça s'est bien passé. Il y a une bonne ambiance et franchement, ça fait du bien de reprendre la compétition.
C'est cool, il y a de l'ambiance, comme il a dit Ethan. Ça fait plaisir de revoir tous les autres copains vu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. En termes de temps, c'est compliqué vu qu'on a alterné entre en bassin et en mer. Donc c'est un changement d'environnement qui est quand même important. On a quand même réussi à progresser un peu, donc c'est cool.
Ce soir, à l'issue de la compétition, la Ligue calédonienne de natation annoncera les sélectionnés pour les stages prévus le mois prochain.
Et un mot de kickboxing avec le combat la nuit dernière de Cédric Do.
Le Calédonien Fighter participait à la soirée du Glory 95, c'était en Croatie. Et le boxeur de 29 ans s'est imposé par TKO au deuxième round sur le Croate qui jouait donc à domicile, hein, Philippe Matic. C'est la 35e victoire du Calédonien en 42 combats.
Et enfin, un mot de cyclisme pour terminer nos pages sport.
Hervé Salin est désormais triple champion junior de Bretagne en cyclisme sur piste. Les championnats se déroulaient hier à Pornic. Hervé Salin, en raison de sa double licence prise au club de Loudéac, pouvait y participer. Il s'est imposé en finale de la vitesse et du Kérin en individuel, Kérin, avant de remporter la finale de la vitesse par équipe avec la team de Loudéac.